Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Kerahir et aujourd'hui nous entamons un nouvel épisode de la série destinée à mieux comprendre et lutter contre le stress. Il va désormais être question aujourd'hui de finir avec toutes ces programmations limitantes qui ont le stress pour origine. Tous ces programmes empêcheurs de tourner en rond, soit qui viennent déjà de base dans notre cerveau, soit que nous nous créons nous-mêmes, et certains d'entre eux qui créent des cycles infinis que l'on appelle addiction et dont il est aussi difficile de s'en défaire. Oui, chers amis, nous sommes dans le troisième épisode de la Masterclass Podcast série destinée à mieux comprendre et lutter contre le stress. Je suis Kerahir et dans cet épisode, il sera question de 1. Comprendre comment nous nous programmons et nous nous limitons volontairement à cause du stress et souvent sans le savoir. Nous parlerons de tous ces programmes de base, la fuite, l'attaque et l'inhibition et comment, suivant la façon dont nous avons de les appréhender, ils viennent prédéfinir beaucoup des résultats que nous allons obtenir dans notre vie. Et vous écouterez ici dans cet épisode un angle à partir de là que je pense vous n'aurez pas souvent entendu et qui est d'une importance capitale et qui pourrait à un moment donné vous amener un moment « Ah ah, c'est pour ça que ma vie est comme ça ». Ensuite, nous parlerons des programmes que nous nous créons de toutes pièces, comme des grands. Tous ces programmes qui vont venir juste définir comment nous agissons et nous réagissons et qui sont déterminé uniquement par nos compréhensions et notre propre création individuelle. Nous parlerons ensuite des addictions à travers l'angle du stress. C'est un sujet très très vaste, mais ce sujet, quand on le prend à travers l'angle du stress, il peut être extrêmement éclairant pour beaucoup d'entre vous, car nous sommes nombreux, beaucoup plus nombreux qu'on ne l'imagine, à subir le problème des addictions, parfois même sans le savoir. Pour moi, par exemple, c'est l'addiction au sucre. Dans tout cet épisode, bien sûr, il sera question de solutions, comme à chaque fois dans cette chaîne. Et ceci pour faire face à tous ces problèmes de la meilleure façon possible. Et avoir toujours et encore cette vision optimiste, car le stress, on peut lui faire la peau. Chers amis, le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés, des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela, nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servi avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète, pas juste de philosopher ou de nourrir le mental. Le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast, chers amis, est fait partie d'un projet de plus grande ampleur au cœur de l'humain et de son potentiel appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur allant au cœur de l'humain et de son potentiel appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Vous retrouverez des articles, des podcasts, des shorts et bientôt aussi des vidéos, des dossiers approfondis, des ressources téléchargeables et plus, le tout sur Conscious, KONXUS-6media.com, une plateforme de divulgation pour une vie plus consciente dans toutes les dimensions de notre vie. Et si vous avez envie d'interagir avec vous, toutes les semaines, vous êtes nombreux à nous écrire, n'hésitez pas à écrire à hello@conxus.com pour nous donner notre avis, nous apporter des commentaires, des constructions des critiques constructives ou ne serait-ce que des suggestions pour de futurs épisodes. Quel que soit le thème qui vous taraude et que vous aimeriez partager avec vous, vous êtes à un email de distance de nous et nous répondons à la totalité de nos messages. Maintenant, allons nous intéresser à ces fameux programmes qui nous pourrissent la vie et comment nous en défaire. Oui, parce que nous allons forcément constater des modus operandi, des façons de faire de notre cerveau, de notre psychologie et comment ceci découle à vraiment des programmes que l'on aimerait sortir de notre quotidien. Bon, jusque-là, on va regarder le côté obscur de la force. Mais soyez sans crainte, parce qu'à chaque fois, nous allons garder un angle positif, parce que nous sommes les maîtres de notre propre destin et qu'il est possible de contourner tout ça pour avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Parce que nos vies sont faites de défis, de challenges et de difficultés. Mais heureusement, on a aussi des parenthèses de respiration, de bien-être, de joie et de paix. Chacun de ces défis entraîne potentiellement des programmations sous-jacentes et des mémoires qui vont vous influencer négativement. Du coup, ça va conditionner vos choix. Ça va limiter vos potentiels. Ça va créer un enfermement limitant, des tensions intérieures et des tensions relationnelles qui peuvent, in fine, en plus de tout ça, aboutir à des dégradations de santé. Alors, dans cet épisode, nous allons les découvrir, on va les nommer et on va leur faire la peau. Alors, nous allons traiter de tout ça. Et parfois, ça va pas être rigolo, forcément, parce qu'on va peut-être se reconnaître. Mais vous savez quoi? Ça va être comme avoir quelque part et ne pas savoir pourquoi et soudainement avoir enfin la réponse et potentiellement la solution. Quel soulagement! C'est comme quand vous allez vous faire masser, ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Car 90% de notre épanouissement est entre vos mains. Il faut juste savoir où regarder. Et ensuite, avoir le courage de vous retrancher les manches pour vous donner les moyens de l'atteindre. Bon, commençons par les programmes de base. Si vous vous rappelez, dans l'épisode, le premier épisode de la série, l'épisode 60 de cette chaîne, Arrêtons de subir le stress, nous avons parlé du cerveau reptilien, le cerveau le plus archaïque. Lui, son but, c'est de sauver notre peau pour perpétuer l'espèce. Face à une menace, il y a un influx de stress, d'adrénaline, de cortisol, etc. etc. Donc, je vous le dis très raccourci, si vous voulez vraiment les détails, je vous réfère à l'épisode 60 de cette chaîne, le premier de la Masterclass Podcast Series dont il est question actuellement. Suite à cette menace, il y a donc un influx de stress et trois programmes basiques qui viennent en réponse à cela. La fuite, l'inhibition et l'attaque. Bon, ces trois programmes, il est impossible de s'en libérer. Seuls les très grands méditants, quand je dis très grands méditants, c'est les très très grands méditants, ont prouvé pouvoir se libérer de l'emprise du reptilien et des réactions qui, jusqu'à jadis, étaient considérées comme instinctives. Mais c'est vrai que ça peut être une option. Mais pour cela, il faudrait vous enfermer et méditer dans une roulotte pendant environ 30 ans. Ces trois programmes sont là, ils vous enquiquinent, mais ils ont une façon particulière de se présenter. Et un peu plus tard dans cet épisode, on va parler justement de comment chacun d'entre nous va avoir un rapport différent à ces programmes-là et leur façon de se présenter. Et suivant comment ils se présentent, ceci va déterminer beaucoup de choses dans la vie que vous allez avoir et les réussites que vous allez obtenir. Et aussi les relations que vous allez vivre. Rien que ça. Donc restez avec moi, je fais d'abord une introduction et nous irons ensuite parler d'exactement ce petit point. Mais on a d'abord les programmes de base. On a ensuite les programmes induits. Dans le cas des programmes induits, les menaces, et le stress sous-jacent nous ont programmés à agir d'une certaine façon. Et ceci se joue à trois niveaux. On a des programmations profondes. C'est-à-dire quand le reptilien et le limbique font leur tambouille, ça aussi je vous réfère à l'épisode 1 de la série, soit l'épisode 60 de cette chaîne, qui explique comment le cerveau fonctionne et se passe du cerveau cartésien, du néocortex, dans la prise de décision pour sauver notre peau. Et qu'ensuite ils se programment, ils viennent programmer notre cerveau. Et c'est reptilien et limbique, cerveau des émotions, qui font tout ce travail-là. Et nous, on ne se rend compte de rien. Ces programmations profondes vont ensuite nous amener des réactions presque instinctives face à des situations. J'en parle dans l'épisode 60. Dans ce cas-là, pour vous libérer de ces programmations, c'est simple, vous optez pour les thérapies brèves. Il est très difficile de se déprogrammer de ces programmations seul. Parmi les thérapies brèves, EMDR et en grande partie l'hypnose, qui est une des voies royales pour reprogrammer le cerveau. Ensuite, deuxième niveau, nous avons les programmes subconscients. On en parle beaucoup dans cette chaîne, parce que c'est une des grandes découvertes de la neuroscience de ces dernières décennies, et c'est qu'à force de répétition, on vient programmer le subconscient. Et on génère des tâches qui fonctionnent en pilote automatique. C'est là que vous comprenez quel va être l'impact des pensées ruminantes. On sait aussi que grâce aux neurosciences, que 90% de nos pensées au quotidien sont les mêmes que celles de la veille. 90%. Mais non seulement ça, c'est que 80% de ces pensées sont négatives. Donc, je vous laisse imaginer l'effet de répétition que ces pensées ont et comment ceci va venir programmer le subconscient et par conséquent définir des programmes qui vont agir en pilote automatique. Donc ça, c'est les pensées ruminantes. Et à côté des pensées ruminantes, on a aussi les visualisations catastrophes. Combien de fois on se projette dans notre tête et on se fait des films de malades et on a crainte et on les tourne en boucle dans notre tête? Eh bien, encore une programmation sous-jacente à force de répétition. Et ensuite, nous avons les situations de vie récurrentes, négatives, que l'on vit une fois, deux fois, trois fois et auxquelles on réagit toujours de la même façon. Ça aussi, ça va venir nous programmer. Dans le cas des programmations subconscientes, vous avez deux choix pour vous en libérer. Encore une fois, les thérapies brèves. Rappelez-vous, un petit parenthèse, les thérapies brèves, ce sont toutes ces thérapies qui aujourd'hui, contemporaines, ont amené des résultats rapides à des problématiques psychologiques qui avant demandaient des années et des années et des années de thérapie longue. En disant ceci, je ne dévalorise pas les thérapies longues, mais je fais le choix volontaire des thérapies courtes parce qu'elles donnent des résultats rapides en très peu de temps. Et quand nous subissons ce genre de situation, c'est ce dont on a besoin. On peut pas se dire aujourd'hui j'ai un problème parce que j'ai une boucle infinie de programmes sous-jacents dans mon subconscient et me dire que dans 10 ans, à force de me faire des séances de psychothérapie, j'arriverai peut-être un jour à les résoudre. Nah, ça ne marche plus dans notre monde. Donc du coup, les thérapies brèves, boum, droit au but, c'est du laser, c'est de la grande précision pour aller se libérer de ces problèmes spécifiques. Donc ça, c'est le premier choix que vous avez pour vous libérer de ces programmes inconscients. De notre côté, vous pouvez avoir une approche autonome et vous allez faire une déprogrammation consciente de ces programmes subconscients. Pour cela, vous allez appliquer des protocoles de visualisation au quotidien, c'est important, dans lequel vous allez visualiser les nouveaux programmes que vous voulez mettre en place pour remplacer les anciens et ainsi briser le cycle. Pour cela, vous allez identifier le problème que vous avez, que vous voyez comme un problème récurrent. Je fonctionne en pilote automatique, je fais toujours ces choses-là. J'aimerais changer cette situation. Pour changer cette situation, vous allez vous regarder l'affaire en fermant les yeux, couché dans votre lit, tranquille à la maison. Vous allez vous imaginer faire cette situation différemment. Alors différemment, ça veut dire quoi ? Différemment, ça veut dire tel que vous aimeriez agir ou réagir dans ces situations-là. Et vous allez visualiser une fois, deux fois, trois fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, parce que votre cerveau fait difficilement la différence. Avant, je disais, ne sait pas faire la différence, mais les dernières découvertes neuroscientifiques nous prouvent qu'en fait, s'il y a une petite différence, mais le cerveau fait difficilement la différence entre ce qu'il vit réellement et ce qu'il visualise dans sa tête. Plus vous vivrez cette visualisation pleinement dans vos tripes, avec votre corps, votre cœur, votre énergie, et que comme si vous étiez dedans, plus elle sera puissante et plus le cerveau aura du mal à faire la différence. Et ceci vous permettra alors de transformer, grâce à la répétition, ces programmes qui vous empêchent de tourner en rond. Ça, c'est le deuxième type de programme induit. Le troisième type de programme induit, ce sont les programmations conscientes. Et c'est là que vous, c'est dans le cas où vous avez fait le choix que vous voulez que les choses soient comme ça et pas autrement. Vous vous êtes défini une compréhension du monde et vous avez étalonné le comportement qui va avec. Pour se libérer de ces programmations, c'est plus compliqué. Car un, elles sont volontaires. Vous avez décidé que c'est comme ça et que vous allez agir comme ça et que c'est pas autrement. Pour pouvoir les changer, ça requiert un travail en profondeur pour aller identifier ce qui vous a amené à prendre de telles décisions. Souvent, ce sont des croyances limitantes, des choix induits par la peur, la tristesse, la colère à un moment donné, des verrous du cœur, on s'est fermé, l'éducation, très importante, l'influence de la société, et à partir de là, l'influence des archétypes sociaux. Toutes ces choses-là vont venir nous induire à un moment donné de notre vie. Et on va prendre des choix. Beaucoup de ces choix, on les prend à une époque un peu vulnérable qui est celle de l'adolescence. On subit beaucoup de choses, ça nous secoue, et là, bam, on prend des décisions grandes que l'on ancre, et on dit, voilà, ce sera comme ça. Et pendant des années, on agit parce qu'on s'est décidé que ce serait comme ça. Et il nous faudra ensuite beaucoup de travail sur soi pour se rendre compte que ces décisions étaient biaisées par des circonstances qui, certes atténuantes, nous amenaient une vision du monde qui peut-être était un peu obtuse et qui a découlé dans des programmations qui finalement méritent d'être changées ou revues. Ceci requiert beaucoup de travail et il faut un grand travail de développement personnel pour les identifier et pour faire sauter certaines de ces programmations. Donc vous avez là deux choix. Le premier, c'est de vous engager dans ce cheminement de développement personnel, mais si vous écoutez cet épisode, je pense que vous y êtes déjà depuis un certain moment, mais aussi, et encore une fois, la thérapie. Donc pendant des années, moi je viens d'une génération et d'un pays où la thérapie était l'équivalent de se mettre une camisole de force et partir en HP. Alors là, c'était le dernier truc que tu pouvais faire, c'était pire, le pire des aveux de vulnérabilité parce que c'était celui de la presque démence. Dieu merci, on n'est plus du tout dans cette situation aujourd'hui. Et le thérapeute, à mon sens, c'est comme le kiné. Sauf que c'est le kiné de la tête. On vient le voir, on lui raconte ce qui se passe dans notre tête, on lui demande des solutions, il nous les apporte, on repart et on est un homme, une femme, neuf. En ce sens, je pense qu'on devrait tous avoir, non pas un, mais des thérapeutes, parce qu'il existe beaucoup de thérapies différentes. J'advoque le plus souvent pour les thérapies brèves, dès le moment où il s'agit de résoudre des problèmes ponctuels comme celui-ci, comme j'ai décrit tout à l'heure. Mais les thérapies longues, elles ont leur intérêt aussi, car elles amènent une approche introspective, plus mentale, mais qui permet de conscientiser beaucoup de choses et de pouvoir s'approprier. On parle aujourd'hui, c'est un terme un peu barbare dans le monde de l'entreprise, d'empouvoirment. On reprend le pouvoir sur sa vie, dans le sens où on arrive à comprendre beaucoup de choses qui, à un moment donné, ont pu éventuellement nous induire certains comportements, nous faire subir certaines situations. Donc, toutes les thérapies ont leur raison d'être. Dans le cas des programmations conscientes, développement personnel et les thérapies. Mais une chose, ce sont ces trois programmes, à savoir les programmations profondes, les programmations subconscientes et les programmations conscientes. Et une autre très différente, ce sont les comportements qu'elles induisent. Et là, on va commencer à parler vrai. Il va être question de nos réactions face au programme. Car maintenant, ici, le moment est venu de faire le lien avec ce que je vous ai dit en introduction par rapport aux trois premiers programmes. Le moment « aha » tant promis arrive à l'instant. Nous avons parlé de fuite, d'attaque et d'inhibition. Voici un détail qui pourrait être une véritable prise de conscience pour certains d'entre vous, comme il le fut pour moi. Et ça va peut-être vous aider à comprendre, vous comprendre, et comprendre aussi votre entourage. dans leur réaction face aux menaces et aux contraintes, mais aussi de comprendre pourquoi, dans certaines situations, les choses peuvent-elles éventuellement être aussi difficiles pour vous. Alors, je m'explique. Nous avons dit qu'il y a trois programmes de base régis par le reptilien. La fuite, l'attaque, l'inhibition. Mais est-ce que vous saviez, c'est là le point clé, est-ce que vous saviez qu'il y a un classement de préférence chez chacun d'entre nous? Et ce classement est un podium. Le gagnant, celui qui est le plus haut dans le podium, est le programme que vous allez déployer toujours d'entrée. C'est le programme par défaut, le premier qui va se présenter. C'est votre choix, fuite, attaque ou inhibition. Mais ce n'est pas toujours possible. Du coup, quand le gagnant ne peut pas s'exprimer, c'est le vice-champion, le numéro 2 qui rentre en lice. Et c'est celui que vous allez déployer quand vous ne pouvez pas déployer le premier. Mais il y a des fois où on ne peut pas le déployer non plus. Et c'est là que vient le troisième lauréat qui va se déployer, et cette fois-ci à la désespérée, car aucun des autres programmes ne marche. Et c'est important. Le troisième se déploie toujours à la désespérée, parce que le message induit au cerveau, c'est que, reptilien, je dois sauver ma peau pour perpétuer l'espèce. Et pour cela, j'ai trois petits programmes. C'est un peu la dèche, on peut le dire. Trois programmes. Le premier ne marche pas. Ok, j'en ai deux autres. Le deuxième ne marche pas. Mais bon, j'en ai encore un troisième. Et quand le troisième se déploie, là, c'est vraiment le branle-bas de combat. S.O.S. Je n'ai pas d'autres ressources. Donc, le troisième, quand il s'exprime de façon désespérée. C'est-à-dire avec des comportements plus que superlatifs, voire exagérés, voire complètement hors propos, où l'on pourrait dire, mais il est fou lui, mais il est folle elle. Non, il ne l'est pas. Il s'est retrouvé à court de ressources, et là, c'est la dernière cartouche qui lui reste. Suivant votre classement, vous le commencez à le comprendre, votre rapport à la vie va être très différent. Et là, je vais illustrer avec des exemples pour vous permettre de comprendre. Je vais prendre deux exemples. On pourrait en faire plein, mais ça ferait que l'épisode serait trop long. Les autres, vous pourrez les déduire par vous-même. Imaginons que vous êtes dans une situation dans laquelle votre programme numéro 1, c'est l'attaque. Le numéro 2, c'est la fuite. Et le numéro 3, l'inhibition. Dès qu'il y a une menace, vous répondez et vous faites face aux situations. Bon, vous allez en découdre, hein, j'ai pas les mots qui viennent. Mais si votre adversaire est trop fort, quel qu'il soit, ça peut être parce que il est trop costaud ou parce que la situation est plus forte que vous et pour les raisons qui soient, vous empêchez d'attaquer. Ce que vous allez faire à ce moment-là, programme numéro 1, je ne peux pas attaquer, numéro 2, c'est la fuite, mais vous mettez les poudres à l'escampette. Vous partez en courant de façon réelle ou symbolique. Mais quand rien de ceci n'est possible, catapoum, vous restez de marbre, tétanisé, incapable de réagir. Et là, après, quand la situation est finie, vous dites, mais pourquoi j'ai pas fait ci, mais pourquoi j'ai pas fait ça, j'aurais dû, mais à chaque fois c'est pareil, je n'y arrive pas, je reste bloqué, mais oui, c'est parce que les deux autres programmes ont échoué. C'est ce qui explique que quand vous êtes face à une situation extrême, vous êtes incapable de bouger. Vous pensez que c'est un bug cérébral, mais non. Fuite, attaque, était impossible. Alors vous croyez que vous buguez, mais en réalité, c'est juste l'inhibition qui s'est mise en place. Dans ce cas-là, très souvent, dans la vie, vous aurez des relations tranchantes, mais vraies, parce que la première chose que vous allez, c'est que vous attaquez, donc vous exprimez, vous en découdez. Écoutez, le coup de pied de dictionnaire, je ne vais pas rester deux heures à savoir comment on conjugue le verbe découdre. Bref, vous aurez les relations tranchantes mais vraies, mais potentiellement aussi beaucoup de conflits, parce que vous y allez. Vous êtes par contre souvent en colère, et vous avez des idées tranchées, parfois obtuses. Mais vous vous dites que vous êtes quelqu'un d'action, quelqu'un qui obtient des résultats, mais vous vous envolez. Parce que quand réellement ça compte, à un moment donné, vous n'arrivez pas plus à bouger. Et là, vous vous dites, Vous craignez quelle sera ma réaction le jour où réellement j'ai un grand problème. Est-ce que je saurai lui faire face? Et rien que ça, ça vous crée de l'angoisse, surtout si vous avez un poste à responsabilité ou si vous êtes à la tête d'une famille avec beaucoup d'enfants, etc., etc., où l'on craint toujours qu'il leur arrive quelque chose. Et ce moment-là vous obnubile parce que vous dites « comment vais-je faire ?» Et là, vous êtes face tout simplement au fait que vous êtes dans un classement attaque, fuite, inhibition. Prenons un autre exemple. Inhibition 1, fuite 2, attaque 3. On inverse le premier avec le troisième. Dans ce cas-là, inhibition, dès qu'il y a une menace, vous faites l'autruche. Dès qu'il y a un problème, vous les fuyez, car ils vous font perdre vos moyens. Dès qu'il y a un problème, votre cerveau, il bug. Et il n'y a plus rien qui se passe. Alors, vous mettez la tête dans le sable, incapable de gérer la peur, vous lui tournez le dos. Et si la menace perdure, alors la meilleure façon de continuer dans l'inhibition, c'est faire qu'elle n'existe pas, c'est alors vous partez en courant. C'est la fuite, le numéro 2 qui se met en place. Mais si la menace a décidé de vous suivre, de poursuivre, alors là, quand vous vous retournez, vous pourriez tuer quelqu'un. Et là, c'est très rare que ceci arrive. Mais les rares fois de votre vie où c'est arrivé, attention les dégâts. Non seulement vous semblez sans limite, mais au fond de vous, vous savez que vous êtes sans limite. Vous pourriez déchiqueter la personne s'il le faut. Pourquoi ? Parce que l'attaque est votre dernier des recours. Ce qui vous amène à des cycles infernaux où les jours où vous avez fait ça, derrière les pots cassés qu'il a fallu ramasser étaient énormes. Et comme ensuite vous êtes dans l'inhibition en programme numéro 1, vous vous êtes créé plein de nouveaux problèmes auxquels vous ne pouvez pas faire face. Du coup, vous vous enfermez, la coquille devient de plus en plus grosse, etc. Et là, c'est le cycle infernal. Dans ce cas-là de programme, vous aurez une vie avec beaucoup de difficultés à avancer. Très peu de relations de confiance, beaucoup de complexes et de croyances limitantes qui s'invitent à la fête parce que vous êtes quand pas dans la capacité de faire, de créer, d'obtenir des résultats. À chaque fois, vous êtes inhibé, donc du coup, vous faites à chaque fois avoir par les personnes que vous en face ou les situations que vous subissez parce que vous n'êtes pas dans l'action. Et ça vous crée une image de vous-même qui est vraiment, vraiment pas valorisante. Mais à ça, on rajoute le fait que vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de vous-même parce que le dernier programme, il est à la désespérée et quand on vous amène à bout là-dedans, vous savez que vous ne pouvez pas vous contrôler. Du coup, la crainte de vous-même vous amène une nouvelle inhibition, ce qui vous ferme encore plus vis-à-vis de votre environnement, vis-à-vis de votre profession, vis-à-vis de votre carrière, vis-à-vis de ce dont vous êtes capable, et vous enfermez dans des boulots qui vous exigent peu, parce que vous risquez comme ça le moindre problème. Et là, vous êtes dans une sorte d'entonnoir dans lequel vous vous condamnez à ne pas réussir. Et vous subissez ça aussi, et l'image de vous continue à subir. Vous vous rendez compte de l'impact d'une telle programmation? Et là, on passe une vie entière à se dire, mais pourquoi, mais comment? Arrêtons là l'exemple. Nous avons pris que deux exemples. Deux exemples qui étaient plutôt extrêmes, et j'ai fait exprès, histoire d'illustrer. Maintenant, vous pouvez jouer avec les différentes combinaisons. Il y a 6 combinaisons en tout. Si vous tirez le fil de la bobine, vous allez finir par pouvoir vous positionner et vous comprendre. On pourrait donc suivre la liste d'exemples, mais on s'arrêtera à là. À travers votre trio, vous pourrez vous reconnaître dans vos réussites, vos échecs, vos relations. Et ça peut être très éclairant et un véritable moment aha. Se libérer du trio en tant que tel, c'est impossible. C'est la programmation de votre subconscient. Mais vous pouvez le contrer. Le reptilien est programmé. Et l'ordre dans lequel les différents programmes vont venir est presque impossible à changer. Certains hypnothérapeutes vous diront que c'est possible. Je ne suis pas en mesure de contrer ces arguments, car l'hypnose est vraiment une approche très puissante. Mais je me demande quand même s'il est assez puissant pour arriver à influencer la hiérarchie dont nous parlons. Car on parle vraiment d'une programmation archaïque. Mais ceci, je le laisse entre les mains des hypnothérapeutes. Si vous avez des compétences en la question, n'hésitez pas à nous écrire et à nous apporter des éléments complémentaires. Je les rajouterai à cet épisode. Écrivez-nous à hello@conxus-media.com pour étayer ces propos. Mais si nous partons de la constatation qu'il est impossible ou presque impossible de changer le trio dont il est question, par contre, il est possible de chambouler l'ordre des choses. Et pour cela, vous aurez besoin de deux exercices en simultané. La visualisation, pour revivre des situations face auxquelles vous voulez agir différemment. Et deux, le scan corporel, pour lire les ressentis qui découlent de ces situations, comment vous vivez ces situations, apprendre à vous connaître, apprendre à vous reconnaître dans ce genre de situation que vous allez visualiser, et ainsi pouvoir influencer le cours des choses quand vous les vivez. Pour commencer, par la visualisation, vous pouvez accélérer le passage d'un programme à un autre. Si votre premier programme ne vous plaît pas, grâce à la visualisation, vous pouvez réduire au maximum, par exemple, imaginons que c'est l'inhibition, vous pouvez le réduire au maximum pour pouvoir donner beaucoup plus de chance, imaginons que le deuxième c'est l'attaque, à l'attaque. Comme ça, vous allez canaliser l'impact potentiellement négatif de votre programme s'il vous empêche vraiment d'obtenir des résultats. Si vous êtes en situation professionnelle et vous subissez au quotidien votre inhibition, vous pouvez accélérer sa présence pour passer rapidement au programme suivant. Ceci grâce à la visualisation. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est canaliser l'impact d'un programme. D'abord, vous avez accéléré le passage d'un programme à un autre et vous pouvez sinon, parce que vous voulez garder ce programme-là, imaginons que finalement vous êtes numéro 1 en attaque et finalement, ben, dans le domaine dans lequel vous êtes, imaginons un domaine professionnel extrêmement challengeant, l'attaque vous aide beaucoup à faire face aux difficultés, vous ne voulez pas abréger ce programme-là. Par contre, il y a des fois, il prend trop le dessus et il vous crée des problèmes. Donc, vous voulez canaliser l'impact de ce programme. Donc, avec la visualisation, vous pourrez faire ces choses-là. Un, accélérer. Deux, canaliser. Donc, maintenant, intéressons-nous au premier point, comment accélérer le passage d'un programme à un autre. Comme je vous l'ai dit, la visualisation. Avec elle, vous allez vous projeter dans une situation challengeante. Vous allez observer vos programmes. Et vous allez vous observer dans le séquencement de ces programmes-là. Puis, vous allez prendre des mesures pour agir autrement. Tout ça se passe pendant la visualisation. Vous vous voyez faire dans une situation que vous avez déjà vécue. Vous avez vu comment vos programmes se sont enchaînés entre attaque, fuite et inhibition. Et une fois que vous voyez cette situation, comme si vous viviez le film, vous allez décider comment j'aurais aimé que le film se passe. Et vous allez revivre le film différemment. Et vous allez prendre des mesures dans votre film pour changer les scènes du film en question. Et là, vous répétez la visualisation avec la mise en place de ces mesures. Vous allez, à ce moment-là, avoir plein de blocages qui vont se mettre en place. Les choses ne vont pas se passer comme vous avez prévu. C'est comme si le cerveau vous jouait des tours. Et c'est un bon signe. Parce que le cerveau, de façon intuitive, va vous amener les programmes, les raisons de faire que ça ne marche pas parce que lui, il a décidé que ça doit se passer autrement. Vous êtes en train de changer l'ordre des choses. Et donc, pendant la visualisation, le cerveau va essayer de maintenir l'ordre des choses. Donc, si la visualisation ne se passe pas comme vous avez prévu, c'est une bonne chose. Chaque fois que vous avez un blocage, un par un, vous allez le traiter de la même façon. À savoir, identifier le blocage, définir une stratégie de contournement, et ensuite, recommencer la visualisation en appliquant cette nouvelle stratégie dans une nouvelle visualisation. Et vous procédez ainsi de façon très régulière et encore et encore et encore et encore. Pendant tout ce processus-là, vous allez observer avec beaucoup de précision tous les ressentis qu'il y a dans votre corps. Et là, le scan corporel, un épisode entier sur l'intérêt du scan corporel a été fait dans cette chaîne. Si vous ne l'avez pas écouté, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, les futurs épisodes magnifiques que nous mettrons en ligne, vous pourrez les écouter chaque semaine quand ils apparaîtront, tous les dimanches. Sinon, si cet épisode vous plaît, je vous invite à nous mettre une note sur Apple Podcast ou Spotify Car plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, plus il y aura de promotion de notre podcast par les hébergeurs et les plateformes d'hébergement de podcasts auprès de larges audiences. Et le dernier point, parce que les fêtes entre amis sont les meilleures, parlez-en autour de vous et invitez vos copains, vos copines, vos proches, vos familles à écouter cette chaîne de podcast et découvrir la quantité de trésors insondables qu'il y a sur la découverte de votre potentiel. Et là, je ferme la parenthèse. Le scan corporel va vous permettre de déceler plein de ressentis et comment votre corps agit et réagit face à une situation. Vous apprendre à vous reconnaître vous permet de savoir où vous en êtes exactement de tout ce processus-là. Et un ressenti sera comme un indicateur. Tiens, j'en suis là. Et vous pourrez alors appeler d'autres ressentis qui sont rattachés au programme que vous voulez mettre en place. Le numéro 2. Pour ainsi accélérer le passage d'un passage à un autre. La répétition, rappelez-vous, amènera la reprogrammation de votre subconscient. Donc vous procédez ainsi de façon très très régulière, je disais tout à l'heure. Vous pouvez changer l'histoire dans votre tête grâce à cette visualisation. Mais vous devez toujours appliquer la même formule de contournement. Parce que vous êtes en train de vous programmer. Si à chaque visualisation, vous êtes une personne hyper créative et vous inventez une nouvelle formule de contournement, en fin de compte, ça ne marchera pas. Parce que vous n'avez pas fait la même visualisation plein de fois. Vous avez fait des visualisations toutes différentes avec des solutions différentes. Vous êtes certes très créatif, mais ce n'est pas ça que l'on vous demande. Vous devez choisir une stratégie de contournement qui va vous permettre d'accélérer le passage d'un programme que vous ne voulez pas pour passer à un autre. Souvent, c'est l'inhibition quand c'est votre programme numéro 1. Mais pas que, c'est vous qui déciderez pourquoi vous voulez accélérer ce passage-là. Ce travail aura plusieurs effets collatéraux. Vous allez apprendre à vous connaître et vous reconnaître, donc à agir plutôt consciemment qu'en pilote automatique. Et ensuite, vous donnez aussi, deuxième effet collatéral, un nouveau message au cerveau qui influencera sa plasticité et intégrera de nouvelles alternatives. Mais maintenant, une fois que vous avez fait toutes ces visualisations, arrive le jour J dans la vie de tous les jours où réellement vous êtes en situation. Et là, je vais vous intégrer juste un détail supplémentaire. Comptez jusqu'à 5. Vous êtes face à une situation et là, vous voyez que les programmes se mettent en route. Vous voyez l'inhibition, vous voyez la colère, l'attaque, la fuite, quoi qu'il en soit, se mettre en place. Et là, vous devenez conscient. La recommandation de compter jusqu'à 5 ne fonctionne que dans une vie moderne, des problématiques de la vie de tous les jours. Dans 90% de cas, nos challenges et nos défis nous laissent le temps de prendre le recul de compter jusqu'à 5. Ça ne marche pas quand vous êtes face à un 38 tonnes qui va vous foncer dessus, bien évidemment. Okay? Mais vous êtes au travail, par exemple, vous êtes dans une discussion difficile, là, vous pouvez prendre le recul. Vous voyez que le programme se met en place, vous voyez que l'inhibition se met en place, vous la connaissez, vous avez tous les marqueurs, elle s'impose à vous. Là, vous la voyez, ok, poum, identification. J'arrive à prendre du recul, j'ai assez visualisé cette situation pour la connaître, poum, dans la vie de tous les jours, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou un compte à rebours. Certains hypnothérapeutes disent que c'est même plus efficace que compter de 1 à 5, c'est de faire un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi ils disent que c'est plus efficace? Parce que le fait de faire un compte à rebours vous invite à arriver à une échéance. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et pendant que vous comptez, c'est ceci l'importance de compter, vous vous connectez à des souvenirs de paix et de lâcher prise. Juste 5 secondes où là, vous allez vous souvenir de ces endroits où... Le cas échéant, pour avoir plus de facilité, vous pouvez travailler aussi en visualisation la création dans votre fort intérieur de ce qu'on appelle un lieu ressource. Un endroit que vous allez créer de toutes pièces où vous vous sentez super bien. Un endroit où vous êtes en 100% en sécurité. Un endroit magnifique que personne ne peut pénétrer. Il n'est qu'à vous. Et là, il y a tout ce qui est le plus beau, le plus magnifique au monde. Et ce lieu ressource est à l'intérieur de vous. Si vous créez ce lieu-là à l'intérieur de vous, quand vous ferez le décompte, il vous sera très facile de contacter avec ces énergies-là, de souvenirs, de paix, de lâcher prise. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Mais en même temps, non seulement vous connectez avec ces énergies-là qui vous permettent de baisser le piston. Deuxième effet collatéral, il reconnecte le néocortex. Le décompte reconnecte le néocortex, ça veut dire que la partie de notre cerveau qui n'est jamais invitée à la fête, parce que c'est reptilien et limbique qui font toute leur tambouille, cerveau archaïque et cerveau émotionnel, quand vous commencez, vous comptez, vous l'invitez à la tête, et là vous pouvez appeler consciemment les nouveaux programmes que vous avez visualisés. C'est-à-dire que vous allez avoir une notion d'ingérence, je mets des guillemets, dans la mise en place de ce nouveau programme. Et vous accélérez ainsi le changement. Alors, sur le papier, tout ce que je vous raconte, ça a l'air simple et encore, hein, il faut du travail. Au début, dites-vous, ce ne sera pas parfait. Mais ce n'est pas grave. Parce que vous vous êtes donné le droit d'agir autrement. Et la satisfaction qui en ressortira, même si le résultat n'est pas encore parfait, sera une source de force et de motivation pour vous. Et là, vous aurez déjà une première victoire. Parce que vous verrez que vous avez réussi à prendre l'enfer en main. Vous n'avez pas pleinement réussi, mais vous avez réussi à prendre l'enfer en main. Donc au début, dites-vous, ce ne sera pas parfait. Il va falloir s'essayer et une, et de deux, et de trois fois. Mais vous allez réussir, c'est une certitude. Donc si c'est programme, vous pourrez la vie. Vous pouvez accélérer le passage d'un programme à un autre et in fine arriver à d'autres univers des possibles qui pourraient vraiment avoir un impact sur votre quotidien, votre carrière, votre réussite et vos relations. Mais ça, ça c'est accélérer le passage d'un programme à un autre. Vous pouvez aussi canaliser l'impact d'un programme. Dans ce cas, on va venir limiter les effets collatéraux négatifs potentiels d'un programme dominant. C'est le programme numéro 1. Le travail qu'on va faire est exactement le même, sauf que les stratégies déployées pendant la visualisation auront pour objectif de trouver des stratégies de contournement des actions récurrentes, des actions qui reviennent tout le temps et que vous voulez changer chez vous, mais qui sont induites par le stress. Exemple. Ça va être beaucoup plus simple. Votre programme numéro 1, c'est l'attaque. Et dans l'attaque, vous êtes colérique. Grâce à ces visualisations, vous allez apprendre à vous connaître et vous reconnaître dans la colère. Vous allez comprendre son mécanisme et comment elle prend le contrôle de la situation, à quel moment elle prend le contrôle de la situation. Vous allez alors identifier les différentes étapes de la mise en place de la colère. Comment vous allez les identifier? Eh bien, chacune de ces étapes est un marqueur sensoriel. Ce sont des ressentis très clairs que vous pouvez identifier. La colère, quand elle commence, quand vous dites « j'ai la moutarde qui m'entonnait », c'est une petite graine de colère. Mais quand vous explosez et que, hélas, vous lui en avez collé une, eh bien, cette explosion de colère a été précédée aussi de sensations très fortes. Entre la graine et les sensations très fortes qui précèdent la claque, il y a un grand dégradé de ressenti. Eh bien, à chacune des étapes, vous allez établir une stratégie. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir 50 étapes, parce qu'entre la graine et la claque, il y a 1000 nuances de ressenti. Il vous en suffit 3. Vous choisissez 3 étapes qui soient les plus clairement perceptibles pour vous. Les autres, vous pouvez laisser tomber. C'est bien de les connaître, mais il y en a 3 principales que vous allez retenir. La première, c'est la vigilance. Imaginons que vous avez, tac, la petite pointe dans le ventre. Pop, un premier ressenti. Ah, là, il y a une graine d'émotion. On peut imaginer que c'est votre point de vigilance. Attends, vigilance. Je rentre dans le mode attaque. Je dois être très attentif, car la colère est en train d'arriver et je sais qu'elle peut me jouer des tours. Ok ? La visualisation vous permet de reconnaître ce moment-là. Grâce au scan corporel, rappelez-vous. Une fois que vous avez ce point-là, vous allez vous programmer avec l'intention de vous dire « Ok, dès que je sens ça en particulier, cette petite pointe par exemple dans le ventre, hein, c'est pas dit que c'est pour vous soit une pointe dans le ventre, bah, imaginez pour l'exemple. Dès que je sens cette pointe dans le ventre, ah, je vais me dire « Attention, j'ai la colère qui vient. » Souvent, on s'est dit « J'ai la moutarde qui m'entonnait. » Ça veut dire que vous aviez cette petite graine de colère. Bon, mais ça, c'est mon point de vigilance. Mais la moutarde, quand elle m'entonnait, des fois, ça commence à piquer un peu, le pif. Du coup, ça s'est dégradé. C'est l'étape 2. Vous allez choisir un autre ressenti. Imaginez que après la pointe dans le ventre, ça monte et on sent le cœur qui s'emballe. Okay? On va retenir ce marqueur-là. Il y en a eu d'autres, hein, entre la, point, la petite graine qui se pose au niveau du ventre et le cœur qui s'emballe. Il y a peut-être une tension au niveau du diaphragme ou aller savoir où je me raidis du dos. Plein de choses peuvent se passer. Moi, on va dire que j'ai retenu dans ma visualisation le cœur qui s'emballe parce que je peux le reconnaître très facilement. Quand j'ai le cœur qui s'emballe, je sais que derrière, je vais avoir une sorte de chaleur qui monte dans le visage. Je vais bloquer les mâchoires. Et après ça, je contrôle plus rien. Parce que je me suis observé en visualisation, en situation de colère. Et je me connais très bien. Donc, je vais décider que le deuxième point de ma stratégie sera quand le cœur s'emballe. Et là, il faut changer de stratégie. Vous restez dans votre programme d'attaque, mais quand vous avez le cœur qui s'emballe, vous savez que dans la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, le changement de stratégie est là, hein, vous devez faire quelque chose pour que la situation change de ton. Il est nécessaire de changer d'angle. L'angle que vous et vos interlocuteurs avez pris n'est pas le bon. Faites le nécessaire pour contourner cette situation. C'est ça que j'appelle le changement de stratégie. Donc, point numéro 1, la vigilance. C'est la petite pointe. Attention, la moutarde montonnée. Point numéro 2, changement de stratégie. J'ai le cœur qui s'est emballé. Là, c'est pas bon signe. Si je continue tel que les choses sont là, je vais lui en coller une. Je veux éviter ça. Et ensuite, on va imaginer que vous arrivez au point numéro 3 quand même. Et là, vous serrez la mâchoire. Là, vous savez que entre la mâchoire et la claque, il reste très peu de place. Vous n'allez pas vous risquer dans cette zone-là. Donc, dès le moment où vous sentez que la chaleur commence à monter, que la mâchoire se serre, si la mâchoire s'est serrée, ce sera aussi loin que vous n'arriverez dans votre programme d'attaque. Troisième étape, fuite ou inhibition. Vous allez bloquer ou fuir la situation. Et ça, c'est suivant les programmes que vous avez, vous aurez plus de facilité à fuir ou plus de facilité à être dans l'inhibition si votre programme numéro 1 est la colère. Donc, vous n'allez pas forcer la fuite ou l'inhibition, vous allez vous connaître, vous reconnaître quel est votre programme numéro 2. Si c'est la fuite, vous faciliterez cette fuite-là. Si c'est l'inhibition, à un moment donné, vous allez vous taire, par exemple, vous allez arrêter d'agir, vous allez favoriser ce programme-là. C'est-à-dire que vous passez au programme numéro 2. Car rien de ce que vous êtes en train de faire ne marche. Alors, vous clôturez le programme d'attaque et vous faites vos choix suivant votre ordre, de votre classement de priorité des programmes. Tout ça, vous le faites en visualisation. Le reste de la mise en application, de la même façon que si vous vouliez accélérer le processus. La mise en application, pareil. Pas simple au début, ça va grincer, vous n'allez pas réussir, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est comme quand vous aviez commencé à faire du vélo, la première fois que vous étiez monté sur le vélo sans les stabilisateurs, ben c'était pas évident. À l'époque, on n'avait pas de tropézienne. Bon, voilà pour les programmes induits par notre reptilien et le classement. Mais maintenant, on va clôturer cet épisode avec une autre partie un peu ardue, qui est l'étape suivante du stress, et c'est ce qui touche aux addictions. C'est un chapitre qui mériterait une série à part entière. Mais ici, je vais juste me contacter de parler de l'impact du stress sur les addictions. Car il y a beaucoup plus de personnes qui souffrent d'addictions que l'on ne croit. Et certaines même l'ignorent et peinent à comprendre l'origine. Donc pour commencer, une addiction est une dépendance à une substance, à une activité ou à un comportement. Cette addiction entraîne une recherche compulsive et difficile à contrôler, malgré les conséquences négatives qui pourraient découler de ces comportements-là. L'addiction est souvent associée à une tolérance croissante, c'est-à-dire que plus on s'expose à l'addiction, plus il nous faut de quantité du sujet de notre addiction pour obtenir le même résultat. Et aussi, il y a des symptômes de sevrage lorsque on restreint l'élément addictif ou lorsqu'on arrête brusquement le comportement addictif. Il y a une sensation de manque qui nous dépasse. Donc ça, c'est la définition de l'addiction et comment elle nous influence. Des millions de personnes subissent des addictions plus ou moins bénignes. Quand on pense addiction, on pense immédiatement à drogue, à alcool, mais c'est beaucoup plus vaste que ça et ça touche des tranches très importantes de la population. Et seuls les cas les plus graves nous sautent aux yeux ou nous viennent à l'esprit quand on parle d'addiction. Et c'est pour ça qu'on se dit, non, moi je suis pas concerné par ça. Pourtant, il y a des addictions qui sont invisibles. Alors une qui est terrible, et je la souffre aussi, c'est l'addiction à la performance des personnes travaillomanes. Celle-là, elle est complètement invisible parce qu'elle est saluée par la société, parce que on promeut ce genre de comportement, c'est salué, c'est applaudi, les gens qui travaillent beaucoup, ils obtiennent des résultats, et donc on ne se rend pas compte que la performance, la recherche, la quête de performance est une addiction extrêmement compliquée à gérer, car totalement invisible. Il y en a d'autres qui sont à peine visibles, comme l'addiction au sucre, que hélas je souffre aussi, et de certains aliments quand ils ne sont pas consommés en trop grand excès. Voilà, on consomme beaucoup de sucre dans la vie de tous les jours, mais vis-à-vis du monde extérieur, c'est invisible. C'est quelque chose que l'on vit avec soi-même parce qu'on n'exagère pas trop, on n'est pas dans une boulimie de cette addiction, mais quand même, beaucoup de consommation de certains aliments. Les réseaux sociaux et la pornographie. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus visibles, comme l'addiction au sucre et à certains aliments, quand ils sont consommés en très grand excès. Quand on dépasse certaines limites, là, le corps commence à réagir et on voit, c'est très visible, le fait que la personne a une addiction à certains aliments. Sans arriver à un comportement boulimique, certaines addictions peuvent être visibles physiquement. Et ensuite, les addictions à la drogue et à l'alcool, au début, elles sont invisibles, mais elles font des ravages dans le temps et après, c'est reconnaissable à des kilomètres quand une personne subit une addiction à la drogue ou à l'alcool. Des millions de personnes sont concernées par ça. Et dans une très très grande partie des cas, à l'origine de l'addiction, il y a un rapport au stress. Face à une menace, il y a un flux de stress. Face au stress, il y a surcharge émotionnelle et sensorielle. Pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes hypersensibles, et il y en a beaucoup aussi. Si c'est trop difficile à gérer cette surcharge émotionnelle et sensorielle, on va adopter potentiellement des comportements de fuite. Et alors, ça ne veut pas dire que la fuite est votre programme numéro un, elle peut venir après, parce que les autres n'ont pas pu se déployer. Et donc, il va y avoir plusieurs angles simultanés qui compliquent la donne. La première chose qu'on va essayer on va essayer de remplacer la menace par une récompense agréable. Donc, face à la menace, on s'octroie une récompense pour se rassurer. Il y a un trop-plein émotionnel et sensoriel, on se rassure avec quelque chose qui nous fait du bien. Sauf que là, on programme le cerveau, parce qu'à chaque fois, on fait ça. Et on le programme à recevoir des récompenses qui lui font du bien. Et quand le cerveau se programme, ben, chaque fois que vous allez avoir une menace, il va vous dire, « Envoie-moi mon sucre, envoie-moi mon cadeau !» Et il va exprimer son manque. Ça, c'est le premier cercle vicieux. C'est qu'on a programmé le cerveau à demander quelque chose chaque fois qu'il y a une menace. Mais cette addiction vous crée du bien, vous fait du bien. Donc du coup, la récompense libère de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, du calme et de la satisfaction. Ce qui mène un deuxième cercle vicieux, et qui est celui d'anesthésier la douleur après avoir remplacé la menace par une récompense agréable. Deux points encore pour anesthésier la douleur. Le premier, c'est que la sécrétion de sérotonine dont on vient de parler, l'hormone du bien-être, du calme, de la satisfaction, envoie un message contradictoire au cerveau. C'est un message de bien-être dans un contexte de menace. Mais le cerveau est programmé pour fuir le risque et sauver votre peau pour que vous puissiez perpétuer l'espèce. Donc, il va être naturellement attiré par toute option qui parle de bien-être. Car le bien-être, c'est la sécurité. La sécurité, c'est zéro menace, vous allez perpétuer l'espèce. Un point, c'est tout. Boum. Du coup, le cerveau veut sa récompense. Car pour lui, si elle procure du bien-être, elle procure de la sécurité. Donc, premier point, sérotonine, boum. Deuxième point, certaines addictions, comme l'alcool et les drogues, mais aussi les jeux vidéo, les réseaux sociaux, la télévision, sont des inhibiteurs sensoriels qui vous abrutissent et grâce à ça, anesthésient la peur, la menace perçue, la douleur, etc., etc. J'ai parlé tout à l'heure de la pornographie, qui est une addiction qui touche particulièrement la gente masculine. Et ça, c'est un addictif puissant aussi, car non seulement il mélange à la fois la récompense du bien-être à court terme, mais il y a en plus de la libération de tension à travers l'acte sexuel ou masturbatoire. Donc il y a non seulement le cadeau que l'on se fait, entre guillemets, en regardant des scènes de pornographie, mais en plus, si la personne passe à l'action, la tension que la menace lui suggère peut être libérée dans ce comportement-là. Du coup, vous avez remplacer la menace par une récompense agréable et vous créez une programmation du cerveau. Ensuite, vous créez un cycle antinomique dans lequel on va donner de la sérotonine au cerveau et celui-ci va vouloir fuir le risque pour se sentir en sécurité. Et le dernier point, vous allez vouloir vous anesthésier pour réduire l'intensité de la gêne de la menace. Tout ça, c'est ce qui se cache à cause du stress dans la mise en place de beaucoup des addictions dont on parlait tout à l'heure. Une fois que les cycles sont en place, il devient très compliqué de les identifier. Et surtout, d'identifier ce qui est à l'origine. Et qu'à l'origine, il y a une source de stress que l'on a du mal à gérer. Trop souvent, quand on va voir son addiction, donc moi j'ai passé des années à lutter contre l'addiction au sucre, mais moi je voyais, je mange trop de sucre, il faut que je change ce comportement, et je restais dans la pointe de l'iceberg. Je ne voyais pas qu'en réalité, il y avait quelque chose que je fuyais, un stress, un comportement que j'avais voulu éluder pour trouver de la sécurité chaque fois que ces situations-là se présentaient. Mais à un moment donné, le cercle devient tellement instauré qu'après je mange du sucre à toutes les sauces. Et c'est là que l'addiction sort du contexte de la menace et rend l'identification de cette menace encore plus difficile à identifier. Mais là, on tient une clé extrêmement importante si vous vous reconnaissez dans la problématique de l'addiction. C'est qu'à l'origine, dans l'immense majorité des cas, il y a une situation de stress et une menace que l'on ne sait pas gérer, que l'on veut taire et que l'on veut fuir. Encore une fois, permettez-moi de vous dire que la question des addictions ne se résume pas à une simple conclusion comme celle que je viens de faire. Ce serait trop simpliste. Ceci dit, cette conclusion est à l'origine de beaucoup d'addictions. Et bien sûr qu'il existe plein d'autres explications. Les traumas, l'histoire personnelle, les douleurs chroniques, la psychologie, etc., etc. Aujourd'hui, je ne fais un focus que sur le stress. Et je ne prétends pas du tout expliquer toutes les addictions, et loin de là. Alors pardon si je donne l'impression de banaliser un problème très complexe et difficile à résoudre. Mais quand on subit une addiction, on va aller chercher à lui mettre fin, lui mettre une fin. Arrêter le comportement tout court, ça ne marche pas. Le manque l'emporte à la moindre vulnérabilité que vous allez avoir. Changer les habitudes, ça marche un peu mieux. Mais le programme initial peut rester latent et si les anciennes habitudes reviennent, l'addiction risque de revenir aussi. C'est comme l'alcoolique qui dit, si j'ai pas de bière à la maison, j'en boirai pas. Oui, mais le jour où t'es face à une bouteille de bière, t'as beaucoup de mal à le pas faire. Moi, c'est ce que j'ai fait avec le sucre pendant des années. J'arrêtais par des périodes longues, plus de chocolat, plus de gâteaux, plus du tout, plus de dessert. Quand t'en as pas au frigo, t'en manges pas. Et c'est vrai que c'est une solution qui marche. Le jour où t'es face à un gâteau, mon gars, je lui faisais son compte, mais bien comme il fallait. Car à la base, ces deux solutions-là, arrêter de bout en blanc, ou changer les habitudes, à la base, le problème du stress n'est pas géré. Donc, l'addiction peut revenir. En cas d'addiction, vous allez pouvoir agir seul ou avec l'aide d'un ou d'une thérapeute. Dans l'ensemble des situations que j'ai décrites aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de thérapie brève, de thérapeute et tout ça. Moi, je vous conseille de gagner du temps et vraiment avoir un ou une thérapeute de confiance. Vraiment. Mais vous pouvez faire ceci en chevalier seul aussi. Ce que vous allez faire, c'est identifier quel est le stress ou la menace que vous fuyez. Au début, ça peut ne pas être simple. Vous allez le trouver. À force d'observer, de visualiser les situations dans lesquelles vous êtes, de vous observer dans l'instant même où vous êtes proie du manque, que vous allez sauter. Pourquoi es-tu proie du manque? Et tu fais la rétro-ingénierie, tu vas finir par trouver la problématique. Face à cette menace, observez quels sont les programmes d'action qui prédominent. Et c'était tout le début de cet épisode. Fuite, inhibition, attaque. Une fois que vous avez observé ça, vous devez veiller à comment changer le rapport à cette menace. Dans le cas des addictions, moi je dis c'est le travail thérapeutique, il s'impose. L'addiction est plus forte que nous, sinon on ne serait pas dans l'addiction. Donc le travail thérapeutique. Mais ensuite, vous pourrez travailler vous sur le rapport au programme dominant comme nous l'avons décrit dans ce même épisode. Et là, on commence à boucler une boucle. Avec ça, on aboutit à la fin de cet épisode et nous touchons à une question, à des questions dont on parle peu, mais qui nous pourrissent la vie beaucoup. Maintenant, vous avez des moyens d'action. Car nous nous sommes programmés, nous sommes programmés pour avoir 5 influx de stress par jour. Comme je vous racontais au début de cette masterclass podcast série, on est programmé pour avoir 5 influx de stress. Mais nous en subissons 75 en moyenne par jour. De 5, on est passé à 75. Bienvenue dans le monde moderne. Dans l'épisode 60, c'est-à-dire le premier de cette masterclass podcast série, je vous explique beaucoup plus en détail cette question-là. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de cette série, abonnez-vous, parce qu'il en reste encore 2, où nous parlerons de pleine conscience et nous parlerons de relations et de stress. Si vous êtes déjà abonné, laissez-nous une petite note sur Apple Podcasts et sur Spotify, car vous savez que plus nous avons de notes positives et d'étoiles, et plus les hébergeurs de plateformes de podcasts nous promeuvent auprès de plus larges audiences. Et encore une fois, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de faire une belle fête tous ensemble. Je ferme la parenthèse, car nous sommes aujourd'hui face à 75 influx de stress par jour. Notre principal problème est notre style de vie et beaucoup des habitudes qui en découlent. Alors c'est normal que notre corps rechigne et flanche. C'est normal. Dites-vous que vous n'êtes pas un cas perdu sans solution. Dites-vous que vous n'êtes pas un ou une loser. Dites-vous que vous subissez un style de vie pour lequel la nature ne nous a pas préparés. Mais le moment, une fois qu'on a compris ça, est venu de prendre le taureau par les cornes et faire la peau à tous ces empêcheurs de tourner en rond. Car nous avons tous une vie de rêve qui nous attend. Et il y en a marre que chaque jour érige de nouvelles barrières pour nous empêcher de l'atteindre. Et le stress est la première d'entre elles, mais pas la seule. Mais nous avons le pouvoir de changer les choses. Seul ou avec de l'aide. Et cet épisode n'a parlé que de ça. Mais maintenant, il ne reste qu'une seule décision à prendre. Voulez-vous le faire ou pas? Chers amis, merci de m'avoir accompagné à un nouvel épisode de cette Masterclass Podcast Series pour comprendre le stress et lui faire la peau. Car il est possible, oui, il est possible de vivre autrement, éloigné du stress et de ses influences sur notre vie, parce qu'il y en a marre de se faire attaquer 75 fois par jour par des mammouths qui veulent nous embrocher. On vaut beaucoup mieux que ça. Mais dans ce rythme de vie de fou, nous avons des programmes qui jouent à notre place, des programmes qui font partie de notre programmation originelle, archaïque, et cela viennent nous définir beaucoup de choses sur comment se passent nos vies, d'autres programmes que nous avons subis et qui sont inscrits dans notre subconscient, et d'autres programmes que nous avons, comme des grands, décidé de programmer dans notre petite tête. Tout ça, on peut le changer. Mais que dire après de ce programme ou ces programmes beaucoup plus insidieux qui nous mènent à des addictions, des comportements répétitifs pour taire, anesthésier la menace, la douleur, la peur, mais aussi pour nous donner une sensation, fausse sensation de sécurité? Eh bien, elles aussi, on peut leur faire la peau et on en a parlé. Je suis Keragir et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir écouter l'ensemble des épisodes de cette série destinée à mieux comprendre le stress, à nous laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify, car plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, plus cette chaîne sera promue auprès des larges audiences. Et la meilleure des fêtes est celle qui se fait entre amis. Parlez-en autour de vous, votre famille, vos proches, vos collègues, car cette chaîne, avant tout, c'est la vôtre. Alors faisons en sorte qu'elle vous ressemble.